Allez, venez les hobbits, suivez-moi.
Moi, un rendez-vous.
Rendez-vous.
Bonsoir.
Bonsoir.
Nouveau.
Ce soir.
Ça fout la trouille les voix de dessin animé quelquefois.
C'est pas de dessin
Je
animé.
Je sais que c'est
là.
Pas un dessin animé. Ça fait encore plus la trouille. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au Énervé, c'est le magazine de la bonne soirée. Une soirée qui compte double. Elle commence dès 18h en podcast. Elle recommence de 22h à minuit à l'antenne comme tout le monde. Première partie, l'actualité et la musique live. Deuxième heure, les archives extraordinaires de France Inter. Et l'actu ce soir, eh bien, c'est la saga Tolkien. L'événement de cet automne, une surexposition à la BNF à Paris, une première mondiale pour célébrer le père et le seigneur de la fantasy qui a influencé jusqu'à...
qu'est-ce que vous voulez dire?
Game of Thrones.
Ah oui, Game of Thrones, non, voilà.
Il faut suivre
la musique,
cette série.
Ou Harry Potter. Et puis même Harry Potter, en
fait. Exactement. Tolkien, un nom qui porte la preuve, eh bien, la plateforme Amazon a annoncé l'adaptation en série de la saga Le Seigneur des Anneaux. Alors, qui était Tolkien? Quel monde et mythologie moderne a-t-il inventé? Faut-il lire son œuvre comme un récit politique? Et que penser des adaptations cinématographiques de son œuvre, du Seigneur des Anneaux au Hobbit? Toutes ces questions, on va les balancer à nos invités. Ils en feront ce qu'ils voudront.
Je pensais que c'était là que vous me lanciez. Et donc, autour de la table pour en parler, Frédéric Manfrin, conservateur à la BNF et co-commissaire de l'exposition Tolkien qui s'ouvre le 22 octobre. Justine Breton qui va nous retrouver, qui est docteur de littérature médiévale et spécialiste de fantasy. Frédéric Sigrist, humoriste, producteur de l'émission Blockbuster, désormais un nouveau podcast natif de France Inter. Le dernier numéro, c'est sur Watchmen pour Frédéric Sigrist. Et Falaine de Lavalette, rédactrice en chef du Point Pop. Elle a dirigé notamment le hors-série du Point, Le Seigneur des Anneaux, Mythes et Origines, paru au printemps mais qui est toujours disponible sur le site du Point.
Sur le plan musical, ce soir, Marion Guilbault, on part de quel côté? Quelle planète?
Quelle planète? Planète Nigeria, planète Lagos. De Lagos à Paris, elle chante la passion amoureuse, c'est la Nigériane Acha. Elle sera en live à la fin de l'émission.
Et puis, autre temps, autre parole, ce sera le Énervé la Suite France Inter, plus de géants du cinéma. Ce soir, du grand frisson avec la masterclass de John Carpenter.
Oh, ça fait peur.
Alléluia, n'importe quoi. C'est parti.
France Inter. Le nouveau rendez-vous, Laurent Goumard.
Frédéric Manfrin, petit rappel historique. C'est en 37 que Tolkien, qui était professeur à Oxford, publie Le Hobbit, premier récit qui va donner naissance à tout un univers. 82 ans plus tard, la Bibliothèque nationale de France accueille une exposition la plus grande jamais réalisée sur le sujet. En tout cas, c'est comme ça qu'elle est vendue. Avec pas moins de 300 pièces et vous êtes un des deux commissaires. C'est la première fois d'ailleurs que la BNF présente une exposition sur un auteur étranger. Qu'est-ce qui vous a pris?
Alors, ce qui nous a pris quelque chose d'assez amusant, c'est que c'est non seulement la première fois qu'on fait une exposition sur un auteur étranger, mais dont on ne possède aucun manuscrit. Donc c'est un double challenge pour nous, puisque d'habitude...
Rien ne va à la BNF.
Mais c'est un challenge, un vrai challenge. Pour nous, vraiment, l'intérêt, c'était de rester sur les expos littéraires comme on en fait, mais oui. Classique. Ouais. On va faire bientôt Proust, Baudelaire. Bon, là, on nous attend. Tolkien, la spécificité, c'est auteur anglais et... pas de manuscrit à la BNF. Donc, toutes les pièces viennent d'Oxford et des États-Unis. Enfin, en tout cas pour les manuscrits.
Mais alors, c'est ça qui est étonnant. C'est-à-dire, premier étranger, on aurait pu penser à un Dickens. Pourquoi Tolkien?
Parce que Tolkien, pour Vincent, l'autre commissaire, Vincent Ferré et moi, c'est vraiment un des très grands auteurs du XXe siècle qui a cette particularité d'être un inclassable. Vous allez en librairie, vous cherchez Tolkien, littérature générale, fantasy, littérature jeunesse... impossible à mettre dans une case.
Ah bah en tout cas, vous le trouvez. Je peux vous garantir que vous allez dans une librairie, vous le trouvez quand même.
Ça,
mais en
sûr.
Effet, pas dans des
Ce
cases
bien précises. Ce qui est difficile, c'est de le mettre dans une case. Et pour moi, un écrivain est vraiment intéressant quand il ne rentre pas dans les cases.
Qu'est-ce que vous attendez tous d'une exposition sur Tolkien? Frédéric Sigrist, par exemple, qu'est-ce que vous attendez de cette exposition?
Mais je trouve que ce qui est assez intéressant chez Tolkien, c'est que au-delà de la magie qui se dégage de son œuvre, Bilbo le Hobbit, Le Seigneur des Anneaux, Le Silmarillion, c'est de voir le contraste avec sa vie d'individu, c'est-à-dire la rencontre avec sa femme, le contexte économique assez difficile dans lequel il a pu grandir à certains moments, la bourgeoisie anglaise, sa rencontre avec son épouse, son rapport au rugby, et voir que ce monsieur qui reste quand même presque la caricature qu'on peut se faire de l'anglais universitaire, avait cet univers, mais qui était presque une porte ouverte sur une dimension, mais incroyable. C'est-à-dire qu'il ne s'est pas contenté de faire un récit d'heroic fantasy comme a pu le faire un peu plus tard J.K. Rowling. Lui, nous a fait découvrir un pays qui n'existe pas, avec un système politique, avec des langues, avec des espèces qui ont évolué. Et c'est assez incroyable de voir, d'imaginer cet homme assez sérieux, même je pense un petit peu conservateur sur certains points, avoir en lui, dans sa tête, cette porte ouverte sur un univers qui, encore aujourd'hui, nourrit tellement, tellement, tellement l'imaginaire d'autant de spectateurs, d'autant de lecteurs. Donc c'est vraiment cette dichotomie assez intéressante chez Tolkien que moi j'aurais envie de voir dans une expo telle que celle-ci.
Et vous, Falaine de la Valette ?
Mais ce qui va être intéressant dans cette expo, c'est de découvrir un peu les autres facettes de Tolkien, parce qu'on sait qu'il est écrivain, on sait qu'il a écrit Le Seigneur des Anneaux, mais en fait, c'est un créateur entier. En fait, il écrivait des poèmes, donc il écrivait vraiment de la poésie. Il se considérait d'ailleurs comme un poète. Ouais. Il dessinait, il peignait. Il est vraiment un artiste dans toute sa splendeur et pas seulement un écrivain. Et puis, bien sûr, il créait des langages. Vous en avez parlé. Et ça, c'est vraiment le cœur et le départ de toute son œuvre, en fait.
Alors, Frédéric Manfrin, vous avez voulu cette expo comme un voyage en terre du milieu. Pour être concret, ça va ressembler à quoi pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de cette terre du milieu?
Alors justement, c'était un peu la difficulté pour nous, c'est Tolkien, il y a vraiment des hyper fans, ouais, qui connaissent sur le bout
tout
des doigts, qui vont même sans doute nous coller régulièrement, et du grand public qui soit le connaît uniquement à travers, j'allais dire, ses successeurs, donc soit les films de Peter Jackson, soit les jeux vidéo, soit, alors s'ils sont des générations avant, même Donjons et Dragons et ce genre de jeux de plateau, et qui connaissent pas forcément ni l'homme, ni alors le reste de l'œuvre. On parle beaucoup du Seigneur des Anneaux, évidemment, et c'est pour ça qu'on commence l'expo par un voyage en terre du milieu, c'est-à-dire pour donner des repères aux gens sur la création d'un univers, de peuples, de langues. Et ensuite, on va vraiment plonger dans les autres aspects de l'œuvre, parce que chez Tolkien, il y a effectivement le professeur d'université, qui fait des éditions critiques de textes médiévaux très Oxford. Et en même temps, il y a le papa extraordinaire qui écrit des histoires, des contes pour ses enfants, et qui fait des choses absolument magnifiques, à la fois en termes d'illustration et d'écriture, parce que Tolkien, avant même d'être un écrivain, c'est un conteur. Vraiment, ça c'est ce qui, à mon avis, le caractérise le plus. Et puis justement, pour aller voir qu'en fait, le Hobbit, c'est le Seigneur des Anneaux, c'est la partie émergée de l'iceberg, et que son grand projet, qu'on retrouve en toute petite partie dans le Silmarillion, c'est vraiment ce qu'il appelle lui son legendarium, c'est-à-dire créer un légendaire, une mythologie entre guillemets, pour l'Angleterre, qui est beaucoup plus vaste, même que cette terre du milieu, qui n'est en fait qu'un continent d'une planète complète.
Quelles sont les pièces que l'on va pouvoir regarder dans cette exposition? Puisque je sais que vous avez travaillé avec la famille Tolkien, vous avez eu accès à quoi, les pièces les plus intéressantes?
Alors les pièces se répartissent en gros deux tiers, un tiers, deux tiers qui sont des manuscrits ou des dessins de Tolkien,
ouais,
et un tiers de pièces qui sont ce qu'on appelle des œuvres de contextualisation. C'est-à-dire des objets qui viennent des collections de la BNF ou d'autres partenaires.
Pour
donner au public, pour que le public se fasse son imaginaire en partant de documents qui ne sont justement pas ce qu'il a pu voir au cinéma ou dans des jeux vidéo, mais des objets que Tolkien a pu connaître, ou en tout cas des objets équivalents. Armes médiévales, mais des vrais, pas des énormes épées de tournoi de jeux de fantasy, justement. Manuscrits. Voilà, ce type de pièce, simplement pour que les gens se fassent eux-mêmes leur imaginaire.
Alors, Falaine de la Valette, dans votre hors-série, vous rappelez que plusieurs faits fondamentaux de la vie de Tolkien, dont parlait Frédéric Seyrig tout à l'heure, éclairent son œuvre, et notamment, vous appuyez au départ sur la guerre, la Première Guerre mondiale, hein, qui aurait aiguisé notamment son goût pour les contes de fées à Tolkien. On n'arrive pas à lier forcément le fait qu'il ait été dans les tranchées, que ça ait nourri sa culture des contes de fées.
Oui, effectivement, donc Tolkien a connu la guerre de 14-18, il était engagé assez jeune, il a perdu une bonne partie de ses amis, et donc quand il s'est retrouvé dans les tranchées, au milieu de ce désespoir ambiant, il a étrangement commencé à composer des contes, pas si étrange que ça, puisque une des fonctions du conte et de ses histoires à lui, c'est de fournir une évasion, c'est de nous permettre d'explorer autre chose, y compris au milieu des plus grandes difficultés, c'est de permettre de s'en sortir, puisque ce sont des contes initiatiques. Et donc il a commencé à s'intéresser à tout ça et à écrire des histoires. Et ce qui est intéressant aussi, et là encore on revient à l'importance du langage pour Tolkien, il a beaucoup été frappé par l'argot des tranchées. Il s'intéressait énormément aux mots employés par les soldats qui lui ont inspiré d'ailleurs le personnage de Sam Gamgee. Et à partir de cet argot, il a commencé à imaginer mais d'où ça vient tous ces mots qu'on emploie, etc. Et à imaginer là encore un contexte, toujours revenir à ce contexte qui fournit un monde à ces langues.
Est-ce que ça a marché tout de suite, l'œuvre de Tolkien? Parce que j'ai pu lire que ça doit beaucoup aux communautés hippies américaines des années 70, et pourtant il a publié en 37. Est-ce que ça a marché tout de suite? Et comment il était perçu dans son pays au départ, Frédéric Manfrin?
Alors, le gros succès, effectivement, c'est après Le Seigneur des Anneaux, donc qui est publié entre 54 et 55.
D'accord, pas Le Hobbit. Donc.
Le Hobbit, donc 37. Ouais. Le Hobbit marche très bien. Marche très bien, mais pour un public vraiment, là, pour le coup, jeunesse.
C'est un livre pour enfants.
C'est un livre vraiment conçu pour les enfants au départ. C'est des histoires qu'il racontait à ses propres, enfants. Ouais. C'est publié un peu par accident. C'est-à-dire que le manuscrit tombe dans les mains d'un éditeur qui trouve l'histoire vraiment géniale et qui publie donc Le Hobbit. C'est un succès assez important en Angleterre, à tel point que dès 38, l'éditeur dit « je veux une suite au Hobbit ». Cette suite au Hobbit, qui n'a plus grand-chose à voir avec le Hobbit, c'est Le Seigneur des Anneaux, auquel il commence à travailler en 38. Il y travaille vraiment, c'est rédigé, enfin en gros, il termine en 49, donc 11 ans de travail pour Le Seigneur des Anneaux. Et là, succès plutôt pas mal pour Le Seigneur des Anneaux aussi, mais pas immédiat. Il faut vraiment attendre les années 60, pour que là, à partir du moment où il y a une édition pirate aux États-Unis puis une édition officielle, c'est repris vraiment par les étudiants américains et alors sur les campus, au moment de la guerre du Vietnam, au moment de, du mouvement hippie, justement, pour des tas de raisons, il y a un vrai boom de l'œuvre de Tolkien.
Ça veut dire qu'on a eu une lecture politique de l'œuvre de Tolkien?
Mais Frédéric Segal, il n'y a même pas besoin d'aller la chercher très très loin, en fait. Elle est assumée clairement, même dans Le Seigneur des Anneaux. C'est-à-dire que le rapport, par exemple, ce que Tolkien a vécu sur les champs de bataille, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans Le Seigneur des Anneaux. Le rapport de Saruman qui détruit la forêt comme ça pour créer des armes de guerre pour ses Uruk-hai. Il y a évidemment le spectre de l'industrialisation massive qui touchait aussi l'Angleterre et qui était rentré dans l'effort de guerre. Et en même temps, ce voyage de Hobbit qui correspond un petit peu au fantasme qu'on peut avoir sur la bourgeoisie anglaise, c'est-à-dire des gens qui fument la pipe, qui mangent, qui rient pas, qui mangent une bonne bière et qui vivent.
Qui mangent une bonne bière, bah, oui, c'est vrai, ce sont des Anglais. Bah,
qui boivent de la bière, etc. Et qui vivent relativement éloigné des grands problèmes de ce monde, et ben en fait les problèmes de ce monde ça finit par leur tomber dessus et on voit que ces hobbits dans Le Seigneur des Anneaux qui vont se confronter à ça, et ben en fait quand ils reviennent changés, c'est-à-dire que le retour n'est pas possible, on ne revient pas immaculé d'un conflit quel qu'il soit. Donc en fait c'est normal que les pacifistes s'y soient retrouvés parce que c'est profondément un appel à la paix.
Et à la fois, Falaine de la Valette, ce que l'on apprend notamment dans votre hors-série, c'est que tout le monde y trouve quelque chose chez Tolkien. C'est-à-dire qu'on soit de droite, qu'on soit de gauche, on y retrouve finalement, il est autant conservateur que progressiste, Tolkien?
On pourrait dire ça. Ce qui est vrai dans Le Seigneur des Anneaux et dans toute l'œuvre de Tolkien en général, c'est que chacun peut s'y retrouver. C'est un peu la valeur essentielle d'un conte, c'est qu'il y a des choses universelles. Ça parle à l'homme en chacun de nous. Et puis il y a aussi le fait que Tolkien a toujours été très subtil. Il n'a jamais tenté de plaquer un message, quel qu'il soit, que ce soit sa foi, puisqu'on sait qu'il était catholique pratiquant, ou ses positions conservatrices ou pas. Il a toujours tenté simplement d'intégrer tout ce qui existait, les mythes, les légendes, les langues, etc., et d'en faire quelque chose de nouveau.
Eh bien, la nouveauté, c'est Justine qui vient juste d'arriver. Une nouveauté, professeur d'université. Alors, on va vous interroger dans quelques instants.
Très bien.
Tout de suite, je vous propose un autre duo inattendu entre la langue du rap et la voix de la pop. Nekfeu est en tandem avec Vanessa Paradis et ils partent, où ça? Dans l'univers.
Dans l'univers, y'a des milliards de vies sur Terre, 7 milliards d'êtres humains, peut-être 3 milliards de filles, mais c'est toi que je veux.
T'es obsédé par le vide et je déteste ton mode de vie. Et puis t'as par le vice, mais c'est toi que je veux.
Y'en a plein, mais y'en a qu'une, c'est toi.
Je sais des choses que tu ne sais pas.
Je sais qu'on serait même pas heureux ensemble.
Nous sommes de ceux que la rancune sait pas.
Pourtant, dans l'univers, il y a des milliards de vies sur Terre, 7 milliards d'êtres humains, peut-être 3 milliards de filles, mais c'est toi que je veux. T'es obsédé par le vide et je déteste ton mode de vie. Et puis t'as ta part de vice, mais c'est toi que je veux.
Y'en a plein, mais y'en a qu'une, c'est toi.
Je sais des choses que tu ne sais pas.
Je sais qu'on serait même pas heureux ensemble.
Nous sommes de ceux que la rancune sépare.
Et même si notre amour raté devait renaître demain, elle m'a dit jamais je ne remettrai mon cœur entre tes mains. Jamais, jamais, n'oublie pas que quand tu l'avais, tu ne m'as laissé que du mal-être et des marques. On était jeunes, on pensait que s'aimer c'était se traiter mal. Pourtant dans l'univers y a des milliards de vies sur terre, 7 milliards d'êtres humains, peut-être 3 milliards de filles, mais c'est toi que je veux. T'es obsédé par le vide et je déteste ton mode de vie. Et puis t'as pas de vice, mais c'est toi que je veux. Y'en a plein, mais y'en a qu'une, c'est toi.
Je sais les choses que tu ne sais pas.
Je sais qu'on serait même pas heureux ensemble.
Nous sommes de ceux que la rancune sépare.
On se dégoûte, on se combat jusqu'à ce qu'on bouffe les pissenlits. Notre couple succomba, ce désir puissant puis s'ennuie. Et le désir disparaît en même temps que la possession. Et les femmes de ma vie défilent en une étrange procession. J'y passerai seule la nuit sous le trait d'un jeune homme qui, quand la lune dort, le soleil lui, moi je ne vois qu'elle. Dans l'univers, y'a des milliards de vies. Sur terre, 7 milliards d'êtres humains, peut-être 3 milliards de filles, mais c'est toi que je veux. T'es obsédé par le vide et je déteste ton mode de vie. Et puis t'as ta part de vice, mais c'est toi que je veux. Y'en a plein, mais y'en a qu'une, c'est toi.
Je sais les choses que tu ne sais pas.
Je sais qu'on serait même pas heureux ensemble.
Nous sommes de ceux que la rancune sépare.
Nos cœurs unis par cette danse que ta lumière peut apprendre à mon ombre. Un jour tu me donneras ton oui et tu prendras mon nom. Un jour tu me donneras ton oui et tu prendras mon nom.
Dans l'univers, un extrait des Étoiles Vagabondes, le dernier album de Nekfeu, programmation sur orbite de Jean-Baptiste Libert.
Depuis l'enfance, je suis fasciné par les langues. J'en ai inventé une. J'ai créé des histoires, des légendes.
France Inter.
Êtes-vous effrayé?
Oui.
Pas assez, apparemment.
Me précieux.
Le nouveau rendez-vous.
Allons, Gandalf, vous avez vu leur tête?
Votre amour de l'herbe à fumer des semi-hommes a nettement altéré votre esprit.
Laurent Goumard.
Fuyez, pauvre fou! Non!
À une semaine de l'ouverture d'une exposition sans précédent, événement sur Tolkien à la BNF à Paris, le père du Hobbit, eh bien, on tente de percer le mystère du Seigneur des Anneaux avec nos invités. Phalène de la Valette, rédactrice en chef du Point Pop, Frédéric Manfrin de la BNF, Frédéric Sigrist, le blockbuster de France Inter, et enfin Justine Breton, spécialiste de fantasy qui vient de se marier et qui vient d'arriver. C'est presque la même chose. Vous venez d'ailleurs de vous marier sur l'ère du Seigneur des Anneaux.
Exactement, avec plusieurs musiques, notamment voilà, la chevauchée du Rohan et la musique de la comté, enfin, du comté. Voilà, c'était assez épique comme mariage.
Et pour se marier avec cette musique-là, ça veut dire que le Seigneur des Anneaux, certes, ça compte beaucoup pour vous.
Ah bah, tu parles.
Mais à quel point, enfin, à quel moment vous tombez dedans, en fait?
À peu près au collège, en fait, j'ai dû commencer. J'ai pas de souvenir de ma première lecture. En revanche, je me rappelle l'avoir lu en boucle depuis. Voilà. Et généralement, j'ai des phases. Hein. Je relis tous les textes, je revois les films, je relis les textes, je revois les films, et ainsi de suite.
Donc ça a commencé par le livre avant les films?
Oui. Oui.
Et pour les autres, Frédéric Sigrist?
Livre aussi.
Livre aussi?
Voilà. Livre aussi, mais à l'occasion de la sortie du film.
Ah oui, d'accord.
Des puristes.
Et livre aussi.
Mais pour la France Inter. Hein.
Voilà.
Oui. Oui, on est à France Inter.
Alors, pour ceux qui n'ont jamais été enfants comme moi, ou ni jeunes, est-ce qu'on peut rappeler très rapidement de quoi parle, par exemple, le Hobbit?
Très rapidement,
très rapidement.
Difficile.
Alors, oui. C'est quoi l'histoire, pour ceux qui voudraient quand même pouvoir rentrer aussi dans cet univers?
Frédéric Sigrist.
Bah, je pense qu'il faut déjà présenter la comté, c'est-à-dire ce petit îlot de verdure où vivent des semi-hommes, voilà, des hommes de petite taille avec des pieds poilus, puis des oreilles un peu allongées. Ils vivent bien, ils ripaillent, etc. Et,
ah oui, ils mangent de la bière.
Voilà. Et,
vous voilà, n'étiez pas là, voilà, justement, on en était là. Oui.
Et un jour, il y a un magicien nommé Gandalf qui vient rendre souvent visite à ses hobbits.
Et Gandalf, c'est entre Merlin et le père Fouras.
Bah, oui, voilà, exactement. Exactement.
Deux personnages tirés de Merlin, de toute façon. Hein, ouais. Donc c'est...
Qui propose une aventure à Bilbo, qui est un hobbit qui, finalement, au-delà de l'apparence un peu bourgeoise de sa comté, bah, s'ennuie. Il trouve que voilà, les gens sont plan-plan. Il a envie d'aventure et Gandalf va lui en offrir une qui va le dépasser et qui va même être un élément déclencheur de ce qu'on verra ensuite dans Le Seigneur des Anneaux, parce qu'il va y avoir la rencontre de Bilbo et d'une créature étrange qui est aussi indissociable de l'histoire du Seigneur des Anneaux, qui s'appelle Gollum et qui a un anneau. Un anneau auquel il est très très attaché, un anneau unique et qui est en fait objet de toutes les convoitises parce que c'est l'anneau qui incarne le pouvoir de Sauron, qui contrôle tous les autres anneaux qui ont été remis qui aux hommes, qui aux elfes, etc., etc. Donc en fait cet anneau il est surtout révélateur de tout ce qui est tapis en nous. C'est ça qui est intéressant dans l'œuvre de Tolkien, c'est que c'est pas un pouvoir magique spectaculaire avec c'est quelque chose qui révèle les pulsions tapis dans l'âme humaine.
Alors, ce qui est très intéressant, c'est de voir donc que cette œuvre est d'un point de vue imaginaire complètement foisonnante, et pourtant il avait la vie la plus chiante du monde. C'est ce que l'on peut lire sous votre plume, Phelan de la Valette, la mobilisation dans les tranchées pendant la guerre de 14-18, oui. Une élection à la chaire d'anglo-saxon de l'université d'Oxford.
Oui, certains sont contentés. Hein, ouais.
Non, mais plus rien. C'est-à-dire, comment il a nourri cette œuvre-là, en fait?
Bah, encore une fois, Tolkien était un philologue, c'est un mot qu'on ne connaît pas trop aujourd'hui, mais vraiment un spécialiste de l'étude des langues et de leurs origines. Et donc, en fait, il est allé puiser dans les langues tout un tas d'histoires, parce que chaque mot pour lui avait une histoire. Et donc, malgré cette vie qu'on pourrait dire casanière, lui-même le reconnaissait, oui. Il disait qu'il était un hobbit, c'est pas pour rien. Il aimait être manger de la bonne bière, fumer de la bonne pipe et rester en les vacances, il voyageait jamais, il allait toujours dans sa campagne, etc. Mais c'était un hobbit qui aimait l'aventure, une aventure intérieure finalement qu'il a explorée à travers ses récits.
Mais il c'était nouveau pour l'époque, parce qu'on a l'impression qu'il a inventé quelque chose, Tolkien. Or, il reprend quand même des choses très anciennes. Justine Breton,
il n'a pas créé la fantaisie. La fantaisie existait avant lui.
Il n'a pas créé la fantaisie, mais il a quand même énormément contribué à développer le genre. Aujourd'hui, Tolkien, c'est un petit peu l'archétype, ouais, de la fantaisie, de la high fantasy en l'occurrence. Cette fantaisie avec un côté très manichéen, le bien contre le mal, même si on a énormément de subtilité et de profondeur psychologique chez les personnages de Tolkien. Donc il ne crée pas totalement le genre, on a des précurseurs, même au siècle précédent, mais il s'inscrit dans toute une vague d'auteurs du XXe siècle qui vont justement développer ce concept avec une proximité de la nature, hein, qu'on retrouve chez Tolkien, qu'on retrouve chez White aussi, l'influence de la guerre, forcément, puisqu'on ne subit pas une ou deux guerres mondiales sans avoir quelques séquelles. Donc ça se retrouve aussi tout ça dans son écriture et dans la possibilité aussi de chercher dans la littérature, dans la création d'un monde nouveau, une échappatoire, de créer ce qu'il va expliquer sous l'escapism, hein, le fait de s'échapper et de trouver ailleurs, peut-être pas des solutions pour notre quotidien, mais en tout cas de trouver quelque chose qui nous permet de sortir un petit peu du fardeau de la réalité.
Régulièrement frein.
C'est vrai qu'on l'a... On le baptise souvent père de la fantaisie, ce qui est vraiment une erreur. S'il fallait trouver des pères à la fantaisie, on pourrait carrément remonter à Homère, d'une certaine manière, oui. Mais pour rester dans les parents proches de Tolkien, il y a toute cette génération autour des pré-raphaélites en Angleterre. Je pense notamment à William Morris, socialiste, artiste, arts and crafts, tout ça, qui a aussi écrit des romances qui sont un peu, là pour le coup, les archétypes de la fantaisie. C'est-à-dire, dans un passé lointain, pas défini, plus ou moins médiéval, mais pas totalement médiéval. Donc des éléments, des briques qu'on va retrouver aussi chez Tolkien. Donc il y a William Morris qui est très très important, que Tolkien a beaucoup lu quand il était étudiant, qu'il cite dans ses lettres. Et j'allais dire dans ses contemporains immédiats, les gens qui réfléchissent à peu près aux mêmes thématiques, vous avez en contemporain exact de Tolkien, Howard aux États-Unis, qui crée Conan le Barbare, un tout petit peu avant le Hobbit, en fait, qui lui, il a créé, défini le stéréotype de ce qu'on appelle l'héroïque fantasy. Donc avec un héros qui va se battre, à qui il arrive des tas d'aventures. Tolkien, c'est pas tout à fait le même courant, mais là vous voyez, vous avez un contemporain exact dont on a un peu oublié le nom de l'auteur malheureusement, mais qui est aussi un des créateurs de la fantasy.
Alors, puisque vous citez Maurice, à quoi ressemblaient les peintures ou les dessins de Tolkien ?
Alors il y a beaucoup de styles différents, c'est-à-dire qu'il apprend en fait à dessiner avec sa maman, donc il fait des aquarelles plutôt naturalistes au départ, des paysages. Et puis dans les années juste avant la Première Guerre mondiale, et c'est très intéressant, il développe un style qui est très avant-gardiste. On n'est pas très loin de l'expressionnisme allemand, des recherches russes. C'est au moment où lui se définit plutôt comme poète, et là il invente vraiment un style pictural qui est très très original. Et puis ensuite, en fait, il va un peu toucher à tout. C'est-à-dire qu'il garde cette patte un peu expressionnisme, avec des choses très très visionnaires, un peu dans la logique de la réflexion psychanalytique et tout ça. Et en même temps, il va aussi faire des petits dessins tout mignons pour ses enfants. Donc en fait, il a vraiment une palette d'artistes qui est très très large.
Falaine de la Valette, est-ce que c'est cet art-là qui va nourrir aussi le cinéma qu'on verra plus tard? Ou alors, est-ce que l'imagerie que va développer Peter Jackson dans les films Le Seigneur des Anneaux vient d'ailleurs?
Elle vient plutôt d'ailleurs, en l'occurrence des deux principaux illustrateurs de Tolkien, qui sont Alan Lee et John Howe, qui ont énormément travaillé sur les illustrations des livres ou de calendriers inspirés de l'œuvre de Tolkien. Et à l'époque où Peter Jackson a voulu se lancer dans ce projet pharaonique qui était l'adaptation du Seigneur des Anneaux, il a fait appel à ces deux illustrateurs, d'abord simplement comme conseillers, et en fait petit à petit ils sont restés, sont devenus un peu les directeurs artistiques du film, et toute l'imagerie des films de Peter Jackson est inspirée de leur travail.
Et Peter Jackson, il a bien compris l'univers de Tolkien, Frédéric Sigrist ?
C'était un pari extrêmement ambitieux que de vouloir adapter toute la richesse de Tolkien telle qu'elle est présentée dans les livres, mais je serais tenté de dire que oui, il s'en est très très bien sorti. Alors évidemment, il faut distinguer la trilogie du Seigneur des Anneaux de la deuxième trilogie, le Hobbit, où là il a essayé en plus de marier à la fois l'histoire du Hobbit avec la bataille des cinq armées et tout ça. Et donc là, on est moins, c'est moins réussi. Mais quand on regarde le cinéma hollywoodien dans tout ce qu'il a pu nous proposer depuis ces dernières années, il y a absolument pas à rougir. Il y a vraiment des moments, même de réalisation en termes de cinéma pur, qui sont franchement incroyables. La découverte de Minas Tirith dans Le Retour du Roi, quand Gandalf remonte les allées de Minas Tirith, c'est une énorme forteresse blanche comme ça, avec la musique de Howard Shore qui s'envole comme ça, ou ces bûchers qui s'élèvent comme ça au-dessus des chaînes des montagnes quand il faut prévenir les pays. C'est magnifique, c'est vraiment magnifique, c'est vraiment une œuvre de cinéma. Donc oui, Peter Jackson a fait un travail qui est absolument fabuleux. D'ailleurs, il a eu des Oscars pour ça, c'était pas un hasard.
La série pour Amazon, vous craignez le pire ou vous êtes confiante? Justine Breton.
Joker, non. Ça peut être très bien. Je pense que d'un point de vue visuel, ça va être très réussi parce que justement, même le Hobbit a beaucoup de défauts, mais d'un point de vue visuel, il y a des prouesses qui sont assez intéressantes.
La série Le Hobbit, hein, ouais.
Oui, la trilogie Le Hobbit. En revanche, ce qu'il faut voir, c'est si l'histoire, si la narration suit, parce qu'on a énormément de choses disponibles chez Tolkien. Il a quand même créé un univers absolument immense. Il faut voir quelles histoires ils vont retenir pour proposer une série qui se tient sur la longueur, parce que voilà, c'est pas le tout d'avoir des effets visuels, il faut qu'il y ait l'histoire qui serve ça aussi.
Surtout que contrairement au Seigneur des Anneaux, donc de Peter Jackson, qui est une adaptation d'une histoire déjà racontée, la série d'Amazon va se passer bien avant, sur une période où même s'il y a beaucoup de récits, de contes qui nourrissent cette histoire, il n'y a pas une histoire linéaire avec des personnages déjà définis dans un cadre, etc. Donc la série d'Amazon va se concentrer sur ce qu'on appelle le deuxième âge, qui se passe des milliers et des milliers d'années avant les événements du Seigneur des Anneaux. Et donc là, en fait, tout est à créer en matière de héros à mettre en avant, d'histoires, de scénarios, d'intrigues. Et donc, bon, je pense qu'on peut tous dire qu'on est très très curieux de voir le résultat, mais qu'on a tous un petit peu
après,
peur.
C'est aussi la série Christ. Sur laquelle Amazon a mis, et même toute plateforme confondue, a mis le plus d'argent. C'est-à-dire que même le cinéma ne bénéficie pas d'un budget tel que celui qu'Amazon a consacré à cette série. Donc, il y a de fortes chances que ça soit une série qui écrase toute concurrence quand elle va sortir, dans le sens où on sait que Game of Thrones s'est terminé. Il y a besoin d'avoir un produit d'appel pour ces plateformes. Et Amazon a bien vu comment ça s'est passé avec Netflix. Il y a Disney Plus qui apparaît. Donc, ils ont envie de frapper un grand coup. Maintenant, ils le font sur avec un auteur et un univers sur lequel les gens sont très, très, très pointilleux pour la bonne raison. On n'est pas encore dans un fandom toxique comme ça peut l'être Star Wars. Par exemple, là, c'est vraiment des gens qui des vrais gardiens du temple et je comprends pourquoi. Donc, il va falloir faire très attention et pas se planter.
Parce que Frédéric Manfrin, ils sont comment les héritiers Tolkien? Est-ce qu'ils gèrent l'affaire Tolkien
Est-ce que les ayants droit ont vraiment un regard avec un cahier des charges quand on présente cette œuvre-là?
Est-ce qu'ils veulent en faire un business aussi parce que...
Non, et c'est tout le paradoxe. C'est-à-dire que il y a chez les ayants droit Tolkien un souci énorme qui est plutôt la légitimation de l'écrivain qui passe vraiment au premier plan. C'est-à-dire qu'eux sont vraiment très très attentifs à ce qui est fait de l'œuvre, et y compris de la biographie. C'est-à-dire que lorsque la bio de Tolkien qui est sortie là en juin est sortie, la famille s'est tout de suite dit « nous on ne cautionne pas ».
Le biopic, le film de cinéma.
Il y a vraiment un regard qui est très très, enfin qui est vraiment plutôt une défense de l'œuvre de l'écrivain, et donc ils sont très très pointilleux là-dessus. Et y compris pour le cinéma, c'est-à-dire que les relations avec la Warner, en l'occurrence, n'ont pas toujours été absolument simples, notamment au moment du Hobbit. Ça s'était beaucoup mieux passé au moment du Seigneur des Anneaux. Mais non, ils sont très très... c'est pas du tout, j'allais dire, une gestion patrimoniale, économique des droits, c'est vraiment le respect de l'auteur.
Il y a une chose intéressante sur le fait qu'Amazon ait eu les droits, parce qu'en fait ils étaient plusieurs à les vouloir. Hein. Il y avait HBO, Netflix, tout le monde se battait pour avoir les droits. Et en fait Amazon l'a emporté parce qu'ils ont eu comme argument, oui mais nous on vend les livres. Et donc ils ont réussi à convaincre la famille comme ça.
Oui, donc quand même des arguments économiques aussi.
Like you're not afraid of anything I do.
I want you here.
You don't know what it's like to be around you. I still got my fear.
It's a way.
It's like inside in a city, loose me.
national rock indépendant américain et atmosphérique, hein, un petit peu, à toute sa place dans le NRV. Moi, c'est sur cette air-là que je me serais marié si j'avais été juste un breton.
Rendez-vous.
Man kenuva lumbor aosta, menel akuna, juhal abonar, ear amortala, undume akala, enwina lume elenilor pela, talta, taltala, atarantie, mindonar.
Vous n'avez rien compris, c'est pas grave, pas d'inquiétude. Rendez-vous le 22 octobre à la BNF pour tout comprendre sur Tolkien à l'occasion d'une exposition événement. Et pour en parler ce soir, ils sont quatre. Justine Breton, spécialiste de fantasy. Falaine de Lavalette, rédactrice en chef du Point Pop. Frédéric Manfrin de la BNF. Et le Gandalf de France Inter. Frédéric Segrist. Vous avez compris ce qu'il vient de se dire? C'est quoi comme
non, et moi ce qui me fait rire, c'est que je sais très bien qu'en passant cet extrait, vous êtes déjà en train de recevoir 252 mails de spécialistes de la langue inventée par Tolkien qui dit, mais là, il a mal conjugué. C'est une honte. C'est... Parce que quand on a fait le blockbuster sur Le Seigneur des Anneaux, il y avait quelqu'un qui avait, il y avait un spécialiste qui avait sorti une phrase et on avait reçu mais des tonnes de mails d'auditeurs spécialisés qui disaient, non, mais là, il l'a mal dit, ça ne se dit pas
il
comme ça.
Il est mal décliné. Alors...
Et donc, c'est vraiment, ils sont très pointus aussi là-dessus. Donc
parce que, c'est une langue elfique qu'on a entendue. Alors, il y a le Sindarin, le Kenya. C'est ça. Mais alors, c'est quoi ces histoires de langue elfique? C'est-à-dire qu'il a composé, Tolkien, une langue, une base, et ensuite plusieurs types de langues, Justine Breton?
Jusqu'à une cinquantaine de langues, quand même. Hein.
Voilà, toutes les langues ne sont pas autant développées, ne sont pas aussi abouties. Mais en fait, il y a une genre de légende urbaine, une blague, hein, parmi les spécialistes de Tolkien, où on dit que Tolkien a créé des romans et a créé des histoires pour avoir le prétexte de citer les langues qu'il avait créées. Donc, voilà, les langues sont vraiment à la base de tout. Un commencement était le verbe, c'est vraiment ça chez Tolkien. Et il a créé pour ces langues toute une culture avec les légendes qui vont avec, puisque le langage ne se développe pas tout seul de façon désincarnée. On a besoin de gens pour la parler, on a besoin d'histoires pour justement raconter dans ces langues. Donc il a créé tout ça autour, mais parce que pour lui, ça nourrissait ces langues. Donc petit à petit, il a créé ces différentes facettes de la linguistique avec des règles propres qui correspondent aussi au climat des différents peuples. Hein. Les hobbits ne vont pas parler comme les elfes ni comme les nains, bien entendu, puisqu'ils ont des particularités physiques, géographiques, etc. Donc Tolkien a imbriqué même tout ça pour créer sa langue. On peut trouver aujourd'hui des dictionnaires ou des éléments qui permettent d'interpréter et de traduire en elfique ou enfin, dans les différentes langues elfiques, etc. En langue orque aussi. Beaucoup plus guttural, hein, quand même.
Frédéric Manfrin, ils ressemblent à quoi les manuscrits de Tolkien, justement? Est-ce qu'ils sont très lisibles, hyper raturés, hyper corrigés ou il pouvait pas écrire ça d'une traite, j'imagine.
Alors là, je vais lui faire une pub d'enfer, et pour l'expo aussi, du coup, c'est que j'ai rarement vu, pour des manuscrits d'écrivains du XXe siècle, des choses aussi graphiques et belles. C'est-à-dire que il y a évidemment des manuscrits avec des ratures, mais il y a beaucoup de manuscrits qui sont des mises au propre, dans lesquels vous avez de la calligraphie, vous avez, bon, évidemment, ces caractères elfiques ou nains, vous avez des dessins dans le texte, c'est-à-dire que Tolkien, il est en train d'écrire, je pense à l'épisode d'Aragne dans Le Seigneur des Anneaux, qui dessine ce que voient Frodo et Sam en haut du col, et puis il fait le plan de l'antre d'Aragne dans le manuscrit, donc les manuscrits sont eux-mêmes des œuvres d'art, déjà. Et c'est assez rare chez les écrivains du XXe siècle.
Falaine de Lavalette?
Oui, effectivement, c'était un artiste complet, on l'a dit, et donc du coup, et c'est ce que j'espère qu'on va pouvoir voir dans l'exposition, justement toutes ces facettes différentes de son œuvre.
Est-il vrai que le mot hobbit vient d'une correction, d'une annotation la correction d'un étudiant qui, sur une page blanche, il aurait écrit dans un trou, il y avait un hobbit? C'est réel ou c'est de la pure légende?
Ah, vous pourrez l'entendre de la bouche de Tolkien même, puisque Tolkien raconte cet épisode à la BBC à la fin des années 60, et on a cet extrait où effectivement il dit qu'il est face à un tas de copies, qu'il n'a pas envie de corriger du tout, que ça l'ennuie, et tout d'un coup il voit une page blanche, et son premier réflexe c'est de dire, je vais lui mettre 5 points de plus, et puis tout d'un coup il voit cette page blanche, lui qui a toujours gardé tous les petits bouts de papier pour noter, il y en a partout dans ses notes, et là du coup effectivement ça jaillit d'un coup, dans un trou vivait un hobbit, sur cette page blanche de copies.
Et comment on traduit? Parce que comme il y a un système de langues énorme, il y a 50 langues dans ces romans, quel est le pari de la traduction?
Il y a d'ailleurs eu des débats autour de la traduction. Il y en a eu au moins deux en France, une des années 70, une par un Québécois au 2014. Et il y a des débats entre les puristes de la première traduction et de la deuxième.
Baleine de la Valette.
Oui, effectivement. D'ailleurs, quand on a fait le hors-série dédié au Seigneur des Anneaux, on s'est posé la question, est-ce qu'on doit adopter la nouvelle traduction, la nouvelle nomenclature, donc par exemple, qui dit que Frodon Sacquet s'appelle Frodo Bessac, selon la nouvelle traduction.
Dans le comté, non pas la comté.
C'est le comté et pas la comté. C'est Gandalf gris mantel et non pas Gandalf maison manteau gris. Donc il y a tout un tas de divergences. Alors nous, on a été traditionnalistes. On a pris la première parce que c'est la plus connue actuellement, mais la nouvelle a vocation à remplacer la première puisque tous les nouvelles éditions du Seigneur des Anneaux sont publiées avec la nouvelle traduction.
Justine Breton, sur ces querelles de traduction.
Oui, et c'est vrai que l'ancienne traduction est aussi très développée parce que c'est celle qui a été utilisée dans les versions françaises du film, enfin des films de Peter Jackson. Donc c'est vrai que ça a contribué aussi à populariser encore plus cette traduction. En revanche, effectivement, essayer de privilégier la nouvelle qui est vraiment fascinante. Alors, il faut s'habituer un petit peu aux nouveaux noms quand on a grandi avec les anciens.
Et pourquoi les noms ont changé comme ça ?
Ah, parce qu'une traduction des années 70 ou une traduction des années 2010, c'est pas du tout la même chose au niveau de la langue. Et pendant ce temps-là, on n'a pas juste passé notre temps à lire Tolkien, on l'a beaucoup étudié aussi. Et on s'est rendu compte que beaucoup de choses qui avaient été traduites dans les années 70 ne correspondent pas à ce que Tolkien aurait voulu, notamment au niveau du respect des noms, au niveau du respect de certaines formulations. Donc, la nouvelle traduction est beaucoup plus proche de la volonté de l'auteur.
Et encore même plus loin, typiquement, si on prend les Hobbits dont on parlait tout à l'heure, vous parliez de Hobbits comme petits bourgeois. Dans la traduction des années 70, oui, ils parlent comme Marcel Proust. C'est dans la nouvelle traduction, on a des petits paysans, des vrais petits paysans qui bouffent des syllabes, qui
ne mangent plus de la bière, monsieur.
Mais ce qui est beaucoup plus fidèle au texte de Tolkien quand il fait parler les Hobbits. Mais c'est vrai que c'est un changement culturel.
Pour moi, ils mangeront toujours de la bière.
Mais c'est parce que, en fait, Tolkien, dès le départ, quand il a écrit son œuvre, expliquait, en fait, l'origine de certains noms et que ça n'a pas forcément été considéré par les traducteurs dans le monde entier pour qu'on ait besoin de retraduire aujourd'hui, Justine Breton.
On n'avait pas forcément accès à tout non plus. Quand on a fait la première traduction, on n'avait pas tous les textes qui ont été édités depuis en anglais et en français. On a énormément de choses qui ont été faites. On a toute une équipe vraiment très efficace qui a travaillé sur Tolkien depuis quelques années. Ce qui fait qu'on a redécouvert ou on a découvert des lettres, des manuscrits inachevés aussi, qui permettent d'y voir plus clair sur ce que Tolkien voulait faire de façon globale. Il n'a pas pu achever tout ce qu'il avait prévu, mais de toute façon, connaissant un petit peu le personnage, je pense qu'il n'aurait jamais terminé.
Une question par rapport à, non pas au contrôle qu'il pouvait avoir sur son œuvre, et notamment par rapport aux adaptations cinématographiques. Pendant la chanson tout à l'heure, donc bien sûr les auditeurs n'en ont pas entendu parler, mais il était question d'un film avec les Beatles.
Oui.
Frédéric Manfrin.
Il y a eu un projet, effectivement, à la fin des années 60. Alors, ça tombait pas très bien pour les Beatles, puisque c'est un peu à la fin de leur aventure. Mais il y a eu effectivement un projet de film avec les Beatles, donc en 68. Donc, qui a été un peu. Enfin, Tolkien regardait ça de manière un peu. Avec beaucoup de surprises, et bon, la fin de l'aventure des Beatles, ça fait que ça ne s'est pas fait. Et il y a eu même un autre projet qui n'a pas eu lieu, comme quoi l'adaptation du Seigneur des Anneaux a été compliquée. Il y a un jeune cinéaste dans les années 70 qui aurait bien voulu faire le Seigneur des Anneaux en film, c'est George Lucas, qui n'a pas obtenu les droits pour faire le Seigneur des Anneaux et de dépit, entre guillemets, fait Star Wars.
Et Bourman aussi qui, lui, de dépit aussi, se tourne vers Excalibur, où on retrouve d'ailleurs des morceaux de script, des morceaux de décor qui avaient déjà été conçus pour Le Seigneur des Anneaux et qui ont été réutilisés pour Excalibur.
Et John Lennon, il aurait joué Gandalf?
Je ne comprends pas les Beatles, qu'est-ce qu'il faisait dans cette histoire?
Je crois que c'était Ringo qui devait jouer Gandalf.
Et il n'y avait rien pour Yoko Ono, j'imagine, parce que de toute façon, il y a très peu de femmes dans cet univers.
Quelle transition, elle aurait pu jouer Arwen ou Galadriel,
et Owen, une certaine classe quand même, faut admettre. Sur
très peu de femmes, quand même, dans cette œuvre.
Très peu de femmes. Breton. C'est aussi une raison qui a fait que Peter Jackson, quand il a ensuite fait la trilogie du Hobbit, il a essayé de créer un nouveau personnage avec Toriel pour rajouter un petit peu de féminité dans cet univers extrêmement masculin. J'ai envie de dire aujourd'hui, on considère que c'est un défaut de Tolkien. On a un gros manque de personnages féminins, mais Tolkien, c'est aussi un produit de son époque. Il écrit sur ce qu'il connaît, il écrit sur ce avec quoi il est à l'aise. Et effectivement, les femmes, Arwen est pour ainsi dire inexistante, dans Le Seigneur des Anneaux. Éowyn, effectivement, a toujours la classe. Ça, on n'a pas de doute. Et Galadriel, Alors oui, Galadriel, mais c'est plus une forme de déesse, elle est plus proche de la Dame du Lac que d'une femme à proprement parler, si vous voulez. Donc, toujours un peu compliqué, hein, la place des femmes.
Mais si on recontextualise, effectivement, on est quand même dans un univers médiéval, dans un contexte de bataille.
Mais les femmes existaient au Moyen-Âge.
Tolkien s'inspire aussi de ce qu'il a vécu lui-même comme expérience, dans son expérience guerrière, et dans les tranchées, il n'y avait pas tant de femmes
c'est
que ça.
Ouais.
Donc forcément, ces héros, quand il imagine le personnage de Sam, c'est un des soldats des tranchées, le personnage du Tommy qui est l'adjudant, etc. Donc effectivement, mais après, on peut quand même revaloriser aussi, on a souvent dit que justement le Seigneur des Anneaux était une œuvre machiste ou je ne sais pas quoi, les femmes, aussi peu présentes soient-elles, ont quand même un rôle déterminant, et le personnage d'Éowyn, vous l'avez dit, c'est assez rare à cette époque qu'il y ait un personnage comme celui-ci, une femme guerrière qui a un rôle déterminant, qui tue l'un des grands méchants de l'histoire, donc c'est pas non plus complètement dérisoire.
Est-ce que vous êtes construit avec le Seigneur des Anneaux ou avec l'œuvre de Tolkien, Frédéric Sigrist, en quoi personnellement cette œuvre est importante pour vous?
Oui, je pense, comme je le disais pendant la chanson, je me suis construit à la fois sur Tolkien, mais aussi chez son, je ne vais pas dire jumeau maléfique, mais Robert E. Howard, le papa de Conan le Barbare. Et les deux, c'est vrai que ça a été la base de la matrice de tout ce que je suis aujourd'hui, c'est-à-dire que sans Tolkien il n'y a pas de Star Wars, après ça m'a permis de découvrir Dune, donc en fait tout mon amour de la pop culture découle de ça aussi, et Howard a commencé à travailler pour des journaux dans lesquels il y avait des comic strips, ça m'a fait découvrir les comics également, donc le monde Marvel d'un autre côté, en fait tout ça c'est une sorte d'arborescence qui va très très loin et qui aujourd'hui se retrouve jusqu'aux jeux vidéo. L'univers de Tolkien est prolongé dans le jeu Shadow of Mordor, et c'est assez hallucinant de voir que tout a commencé avec ce prof de langue à Oxford qui écrit dans un trou il y avait un hobbit, et aujourd'hui on est face à une industrie qui vaut des milliards et des milliards de dollars et qui touche absolument tout le monde sur la planète, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur culture, c'est quelque chose qui parle à énormément de monde.
Traduit dans le monde entier, jusqu'au Japon, jusqu'en Corée, jusqu'à...
Oui, et depuis, en fait, très
avec
rapidement.
Avec un succès égal un peu partout.
Oui, étonnamment, c'est alors un succès qui varie en fonction des décennies. Hein. On retrouve parfois, on redécouvre Tolkien dans certains pays du monde. Donc, ce qui fait que globalement, il est lu à peu près tout le temps dans le monde depuis la première publication des textes, ce qui est assez fascinant quand même.
Ils font quoi aujourd'hui les ayants droit de Tolkien, Frédéric Manfrin?
D'abord, il y a encore deux enfants en vie. Hein. Ouais. Christopher, qui a quand même largement contribué à faire connaître l'œuvre de son père, parce que lui-même était aussi professeur à Oxford, d'ailleurs, spécialiste de littérature médiévale. Et il a pris sa retraite un peu anticipée à la mort de son père, en 73, et il a commencé à publier les masses et masses de manuscrits. Donc Christopher est toujours vivant, il va avoir 95 ans en novembre, et il a encore publié en 2018 des textes de son père. Et il a encore sa fille, la plus jeune, Priscilla, qui est toujours vivante, et pas mal de petits-enfants. Donc, qui continue, vous voyez, à travailler vraiment et à faire connaître l'œuvre, en tout cas pour les enfants.
Et l'autre? Vous disiez qu'il y en avait deux.
L'autre, donc, c'est Priscilla, sa fille, qui est toujours en vie, qui elle aussi participe D'accord. encore à la défense du patrimoine de l'œuvre de son père.
Et avec un grand respect à chaque fois de la mémoire et du travail de leur père, c'est vraiment pas une volonté de s'approprier ou de marchandiser tout ça, s'il y a une vraie admiration dans le...
Un respect des valeurs, comme voilà. Quoi il leur a raconté de belles histoires quand ils étaient enfants. Nous, on va écouter de la bonne musique. Pour se quitter, avec Marion Guilbeault, on part en live tout de suite.
Le nouveau rendez-vous sur France Inter.
Vous êtes un peu Seigneur des Anneaux ou pas du tout?
Je suis complètement Seigneur des
c'est
Anneaux.
C'est vrai, Marion?
Mais ouais, je les ai vus 10 fois, 20 fois chacun. Bilbo les Hobbits, je l'ai lu. Enfin bon, voilà, moi c'est vraiment mon truc, l'héroïque fantasy. J'adore ça.
Asha, c'est une artiste qu'on a découverte il y a une dizaine d'années. Et elle a une histoire toute particulière avec la France. Elle s'appelle Bukola Elemid, dans le privé. Elle est née à Paris. Ses parents y ont vécu un temps avant de retourner au Nigeria. Et Asha, à ses débuts, avait été signée par un label français, Naïve. Alors, de son enfance à Lagos, Asha, elle garde en tête et dans son corps les sons de Fela Kuti et de Bob Marley, deux de ses grandes inspirations. Et quand son premier album éponyme sort en 2007, il fait l'unanimité auprès de ceux qui cherchent de la chaleur dans la musique avec un titre comme celui-ci. There is fire on the mountains, and nobody seems to be on the run. Oh, there is fire on the mountain top, and no one is running.
Ah, je me souviens, c'était super.
Ouais, on était déjà archi fan. Ouais. Elle a poursuivi depuis sa carrière de chanteuse globetrotteuse à l'image de sa musique qui fait le lien entre l'Afrique, l'Amérique, l'Europe. Et même si elle ne chante qu'en anglais ou en yoruba, elle continue de garder un lien très très fort avec la France. Son nouvel album, Lucide, est d'ailleurs produit par un Français, Marlon B. Il a travaillé avec Juliette Armanet, avec M, avec Benjamin Clémentine. C'est un disque qui ne parle que d'amour sous toutes ses formes, la joie, la complicité, le plaisir, la blessure, la trahison. C'est un disque à la production très léchée, très élégante. Mais moi, je me demande si j'ai pas quand même un petit faible supplémentaire pour Asha quand elle joue en acoustique comme ce soir au Énervé. Asha, c'est à vous.
Bonsoir. Over waiting for you. This plane is leaving without you. Cause I am too fly for this. And I have no time for this. I'm not afraid of being honest. I'm not afraid of being on my own. And I am so fine for this. So I'll be good in no time.
L'album Lucide, elle est accompagnée par Stéphane Bertin à la guitare et par Jeannette Nouos, au chœur. Elle sera en concert dès le 16 novembre à Alençon, Saint-Ave, Grenoble. Au Trianon à Paris, ce sera le 16 décembre, avant de repartir sur la route en 2020. La prise de son ce soir était assurée par nos hobbits Mathias Alléon, Théo Gomard et Louis Audebert. Merci beaucoup, Asha, d'être passé par le Nouveau Rendez-vous.
Merci.
C'est vrai qu'ils mangent de la bière, hein, nos hobbits. Je les ai vus derrière la vitre. Merci à nos invités. Frédéric Manfrin, on vous retrouvera dans cette exposition Tolkien à partir de mardi prochain à la BNF à Paris. Justine Breton, allez, on rappelle Kaamelott, un livre d'histoire chez Vendémiaire. Et puis bon mariage. Frédéric Sigrist, podcast Blockbuster revient en podcast natif. Ça veut rien dire ce que je viens de dire. Frédéric Sigrist, Blockbuster revient en podcast natif.
On peut manger de la bière, on peut dire ce qu'on veut.
C'est vrai, quand on mange de la bière, on peut franchement, faire ce qu'on veut. Sur franceinter.fr. Et le dernier numéro est consacré à Watchmen. Et enfin, Phalène de la Valette, le hors-série Point Pop, le seigneur des anneaux mythes et origines, est disponible sur la boutique en ligne du coin. C'était le NRV, première partie. On se retrouve dans 15 minutes pour le NRV La Suite, pour plus de France Inter. Mais demain, au programme du NRV, Kézako.
Ce qu'on voit, c'est que les pétitions, les manifestations, les marches n'ont entraîné aucun changement. Donc on essaie une autre méthode.
Extinction, rébellion, quand la désobéissance civile se met au service de l'écologie, une extension du domaine de la lutte. Ça, c'est votre titre, il est très bien, Benoît Lagane. En live, Marion, demain.
Une musique expérimentale et onirique, c'est celle du groupe Limousine.
Le NRV, c'est Marion Lelay à la réalisation, la programmation et la préparation. Virginie Rosic, Clémence Diligent et vous, Benoît Lagane.
Rendez-vous.